quand on signe un contrat majeur aujourd'hui, l'expérience est presque, enfin, elle est très clinique, très propre.
Ah oui, complètement aseptisée même.
Exactement. Tout est parfaitement encadré, rangé dans des dossiers numériques ou sur du beau papier en tête. On achète une maison, par exemple, ou on valide un partenariat commercial et au final, ça se résume à paraffer le bas d'une trentaine de pages.
Des pages remplies de jargon juridique, oui.
Voilà. Et pendant ce temps-là, on a un notaire ou un avocat qui explique les clauses de responsabilité mutuelle. Donc, il y a vraiment cette attente de sécurité, de propreté. On limite les risques.
Et si l'une des parties fait défaut, un tribunal s'en charge. C'est vraiment cette propreté juridique qui représente le summum de notre droit moderne, en fait.
C'est ça. On monétise les pénalités.
Tout à fait. On ne met plus sa vie en jeu lors d'une transaction, on met en jeu son capital, ou sa réputation au pire.
Mais justement, quand on quitte nos bureaux climatisés pour plonger dans l'Antiquité, cette illusion de sécurité, elle vole en éclats.
Ah ça, c'est le moins qu'on puisse dire.
On se retrouve face à des paysages désertiques, des accords qui sont scellés littéralement dans le sang, et des visions nocturnes complètement terrifiantes. C'est un paysage contractuel qui donne le vertige.
Un choc des cultures totales.
Et c'est vraiment ce qui frappe le plus quand on examine notre sujet du jour. Je suis ravie de plonger là-dedans avec vous parce qu'on va analyser les notes et les transcriptions d'un cours universitaire. C'est un cours d'histoire de l'Ancien Testament donné par le docteur Robert Vanoy.
Un cours passionnant, ouais. Et d'une grande densité.
Très dense. Et le sujet central, c'est l'alliance abrahamique, telle qu'elle est décrite dans les chapitres 12 et 15 du livre de la Genèse. Et on réalise très vite que ces rituels, qui sont vieux de 4 millénaires, c'est pas du tout juste du folklore poussiéreux.
Non, pas du tout. Ça définit une mécanique d'une précision incroyable. C'est une architecture qui a façonné des concepts théologiques majeurs.
Des concepts qui dictent encore aujourd'hui, dans le fond, une certaine vision de ce qu'est l'engagement absolu.
C'est ça. Le travail d'analyse du docteur Vanoy nous oblige vraiment à regarder au-delà de, disons, la fable morale un peu simplifiée qu'on retient souvent de ces textes fondateurs.
Ouais, on oublie souvent la complexité en dessous.
Exactement. Ce cours universitaire, il décortique les dynamiques de pouvoir, il analyse des choix de traduction extrêmement minutieux et il nous plonge dans les pratiques diplomatiques du Proche-Orient ancien.
Et le but de notre exploration aujourd'hui, c'est de démêler tout ça pour rendre cette matière antique vraiment accessible. Donc, pour comprendre cette anomalie juridique et théologique, je pense qu'il faut remonter à la source du premier contrat.
Très bonne idée. Reprenons au chapitre 12 de la Genèse.
Voilà. Au chapitre 12, on a cet homme, Abraham, qui vit à Haran. Et là, il reçoit un appel divin qui lui demande de tout abandonner. Et quand je dis tout, c'est sa géographie, sa structure familiale, sa sécurité financière.
Un saut dans le vide absolu.
De manière très amusante avec notre époque. Dieu lui promet de, je cite, « rendre son nom grand ».
Ah oui, le fameux grand nom.
C'est ça. À ce moment de l'histoire, le type est âgé, il a même pas d'enfant. Promettre la célébrité, un grand nom à un inconnu, sans héritier, ça fait un peu penser à notre obsession moderne pour la construction d'une marque personnelle, non?
C'est vrai que c'est très personal branding.
Exactement. Cette quête de devenir viral, d'avoir des millions d'abonnés pour exister.
C'est une comparaison intéressante. Après, le désir de laisser une trace indélébile, c'est une constante anthropologique. Mais le génie de ce texte-là, tel que Vanoy le souligne, ça réside dans son intertextualité.
C'est-à-dire ?
Ce détail sur le grand nom, en fait, c'est une réponse directe aux événements des chapitres qui précèdent. Le récit biblique a mis en place un schéma super clair. Par exemple, au chapitre 6 de la Genèse, le texte mentionne ces entités mystérieuses, les fils de Dieu et les Néphilim.
Ah oui, les géants, les héros de l'Antiquité.
Voilà. Et leur caractéristique principale, c'était une volonté féroce de devenir des hommes de renom. Ils voulaient être des figures de légende par leur propre puissance brute.
D'accord, donc on a déjà cette soif de célébrité au chapitre 6.
Exactement. Et c'est encore plus marquant juste avant l'appel d'Abraham, au chapitre 11. Là, on a l'épisode célèbre de la tour de Babel.
Ah, la tour de Babel. L'humanité qui se rassemble autour d'un projet architectural massif.
Et avec un slogan qui est très explicite dans le texte. Ils disent « Faisons-nous un nom ».
Ah d'accord. Faisons-nous un nom. C'est vraiment l'ambition humaine par excellence. C'est l'idée de s'élever jusqu'aux cieux par la technologie, la technologie de l'époque, la brique cuite, pour s'imposer face au divin. On arrache la gloire à la force des poignets.
C'est exactement ça. Et le contraste avec Abraham, il est complètement intentionnel et il est saisissant. À Babel, l'humanité tente de prendre la grandeur par l'orgueil, par la rébellion.
Et la réponse divine, c'est la dispersion.
Voilà, ça se termine mal pour eux. Mais avec Abraham, la dynamique de pouvoir, elle est totalement inversée. Dieu s'adresse à un individu isolé, silencieux, et lui dit « Je rendrai ton nom grand ».
Donc ce que la civilisation entière n'a pas réussi à s'approprier par la force, Dieu choisit de l'offrir légitimement, comme un don à un seul homme.
C'est brillant, non? La véritable grandeur, selon ce paradigme, c'est plus du tout une conquête monumentale, c'est une grâce qu'on reçoit. C'est un changement de logiciel total dans la façon de concevoir la réussite et l'identité.
C'est fascinant. On passe d'une logique de prédateur à une logique de récepteur. Et d'ailleurs, cette promesse, elle ne s'arrête pas juste à la gloire personnelle d'Abraham. Elle s'étend avec cette fameuse clause qui dit que toutes les familles de la terre seront bénies à travers lui.
Le verset 3 du chapitre 12. Un verset crucial.
Et c'est là que les notes du docteur Van Hooy nous plongent dans un véritable champ de bataille linguistique. Le cours consacre un temps vraiment considérable à un débat de traduction autour de ce verset précis.
On entre dans la grande mécanique des verbes hébreux.
Voilà. Et pour être tout à fait honnête avec vous, quand on étudie l'histoire des grandes idées, on peut se demander si un simple petit suffixe grammatical vieux de plusieurs millénaires justifie une telle obsession. Je veux dire, est-ce qu'on a vraiment besoin de décortiquer des conjugaisons pour comprendre l'impact d'un texte sur l'humanité ?
Je comprends tout à fait l'irritation face à ce genre de débat un peu pointilleux. Mais cette querelle grammaticale, en réalité, c'est une enquête de haute volée. Elle détermine le sens même du texte et de la religion qui en découle.
Rien que ça. Alors, expliquez-nous, quel est le cœur du problème ?
Tout tourne autour de la manière de traduire l'action de bénir. En hébreu ancien, les formes verbales indiquent de manière très stricte si une action est active, passive ou réflexive.
D'accord.
Or, cette promesse spécifique de bénir les nations, elle apparaît 5 fois dans la Genèse. 3 de ces occurrences utilisent la forme niphal.
Niphal ? Et ça veut dire quoi concrètement ?
Le niphal, c'est la forme classique pour exprimer le passif en hébreu. Donc jusque-là, tout va bien. On traduit par « les nations seront bénies ».
Très bien, c'est le passif. Où est le problème alors ?
Le problème, c'est que les 2 autres occurrences utilisent une forme différente, le « itpael ». Et c'est là que le piège linguistique se referme.
D'accord, donc on a une anomalie linguistique sur 2 versets. Quel est l'enjeu avec ce fameux « itpael » ?
Un commentateur très influent du XXe siècle, Ephraim Speiser et Van Hooy, analyse sa théorie en profondeur, a postulé que la forme « itpael » devait être comprise de manière strictement réflexive.
Réflexive, donc l'action se réfléchit sur le sujet lui-même.
Exactement. Selon cette grille de lecture, la traduction correcte ne serait pas « les nations seront bénies par toi », mais « les nations se béniront elles-mêmes par toi ».
Oh, waouh ! Mais concrètement, ça transforme le sens du texte du tout au tout.
Absolument. C'est plus du tout la même dynamique.
Bah oui, parce que si c'est réflexif, ça veut dire que les autres nations regardent la réussite d'Abraham, elles constatent sa prospérité, et elles l'utilisent simplement comme un modèle. Elle dirait en substance « que les dieux me rendent aussi riche et prospère que cet homme ».
C'est ça. Abraham devient une sorte de coach de vie de l'Antiquité, un standard de développement personnel que les autres essaient d'imiter pour s'auto-bénir.
C'est fou. Mais du coup, l'enquête de Van Hooy, elle conclut quoi là-dessus ?
Eh bien, l'enquête ne s'arrête pas là. D'autres linguistes majeurs, comme Macrae et Oswald Halit, ont repassé l'hébreu ancien au peigne fin. Et ils ont découvert une faille fatale dans cette règle réflexive de Speiser.
Ah, laquelle ?
Ils ont démontré qu'au moins un quart du temps, dans les textes de cette époque précise, le « itpael » fonctionne en réalité comme un passif et non pas comme un réflexif.
Donc le débat est relancé.
Totalement. Et pour clore ce débat, le docteur Van Hooy fait appel à des témoins historiques qui sont vraiment cruciaux. Les traductions antiques.
Les fameuses traductions de l'époque.
Oui, notamment la Septante, en grec. Et surtout, les targums.
Alors, là, il faut absolument préciser ce que sont ces targums pour bien mesurer le poids de cet argument, parce que ce ne sont pas des traités pour l'élite intellectuelle, loin de là.
Non, c'était vraiment pour le peuple.
C'est ça, ce sont d'anciennes paraphrases en araméen qui étaient lues publiquement dans les synagogues. C'est littéralement la façon dont le citoyen moyen de l'époque comprenait le texte dans sa langue de tous les jours.
C'est une précision vitale. Et devinez comment ces targums traduisent ce passage précis.
Au passif.
Exclusivement au passif. La compréhension populaire et historique unanime, c'était « les nations seront bénies ». Ce n'est pas du tout une simple imitation morale. Et la raison pour laquelle Van Hooy insiste tant là-dessus, c'est que cette forme passive, c'est le moteur de tout le Nouveau Testament plus tard.
D'accord, donc c'est pas juste un détail de linguiste.
Ah non. Si l'on écoute l'apôtre Paul, par exemple, dans sa lettre aux Galates ou dans le livre des Actes, il cite cette promesse faite à Abraham et il l'appelle carrément l'évangile annoncé d'avance.
Oui, le fil conducteur de la théologie.
Voilà. C'est le lien qui relie la promesse faite dans le jardin d'Éden d'écraser le mal au choix de la lignée d'Abraham, jusqu'à l'intervention historique de la figure du Christ.
C'est vertigineux de penser qu'une vision théologique mondiale dépend littéralement de la validation d'une forme passive.
C'est la beauté de l'exégèse.
Parce que, en fait, si on enlève le passif, on ampute le texte de son aspect d'intervention divine active pour le transformer en un simple manuel de bonne pratique. La bénédiction n'est plus un exemple à suivre, c'est une intervention historique à recevoir.
C'est un résumé parfait.
Mais, et c'est là qu'on passe à la suite, pour qu'une intervention historique prenne racine, pour qu'elle s'incarne dans le monde réel, il faut une géographie. Un canal mondial de bénédiction a besoin d'un point de départ physique. Ce qui nous amène à cette fameuse promesse territoriale.
Ah oui, la question de la terre promise.
Dieu délimite des frontières colossales pour les descendants d'Abraham, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate.
C'est une zone géographique immense.
Et ces confirmations géographiques, elles interviennent lors de rencontres assez spectaculaires, que le docteur Vanoy classe en deux catégories distinctes, la théophanie et la vision.
C'est une distinction très importante pour comprendre comment l'expérience était vécue. Le chapitre 12 mentionne que l'Éternel apparut physiquement, c'est la théophanie, alors que le chapitre 15 s'ouvre sur une parole reçue dans une vision.
J'y ai réfléchi et pour bien saisir la nuance avec des termes d'aujourd'hui, on peut recourir à nos technologies contemporaines.
Ah, je suis curieux. Allez-y.
Une vision, telle que c'est décrit dans le chapitre 15, ça s'apparente à une puissante simulation interne. Presque comme de la réalité virtuelle ou un rêve extrêmement lucide. Les informations sont téléchargées directement dans l'esprit, sans nécessiter les yeux ou les oreilles physiques.
D'accord, l'immersion mentale totale.
Voilà. En revanche, la théophanie, ça fonctionne plutôt comme de la réalité augmentée. C'est une intrusion manifeste et temporaire du divin qui est projetée dans le monde matériel. Et donc, c'est perceptible par les sens externes, physiques. On peut la voir interagir avec l'environnement, on pourrait presque la toucher.
L'analogie est redoutablement efficace. Que ce soit par une projection interne, la vision, ou une intrusion matérielle, la théophanie, le contenu de la promesse reste ce vaste territoire.
Et c'est là qu'on a un gros problème historique, non ?
Oui. La grande question qui agite les spécialistes, et qui est très bien abordée dans la source, c'est de savoir comment une telle superficie a pu être promise, alors qu'historiquement, on sait très bien qu'Israël n'a jamais maintenu un contrôle permanent sur un tel empire géopolitique.
Donc est-ce qu'on doit en déduire que le contrat a échoué ?
C'est toute la question. Et l'analyse du cours propose trois grilles de lecture fondamentales pour résoudre cette fameuse dissonance.
Et ces trois perspectives, je les trouve fascinantes parce qu'elles montrent très bien comment un même ensemble de données génère des conclusions diamétralement opposées selon qui les lit. Comment la première école de pensée gère cette faille historique ?
La première approche, c'est celle de l'accomplissement provisoire. Ses partisans soutiennent que la promesse a bel et bien été tenue, mais de manière temporaire, à un moment très précis de l'histoire.
Tuer des rois spécifiques.
Exactement. L'âge d'or sous les règnes de David et de Salomon. Les archives bibliques de cette époque indiquent que les royaumes vassaux et la sphère d'influence d'Israël s'étendaient effectivement de la frontière égyptienne jusqu'à l'Euphrate.
Donc ils disent que la clause a été honorée historiquement.
Oui, même si le territoire a été perdu par la suite à cause des divisions politiques. C'est la vue provisoire.
Une validation historique courte mais réelle. Très bien. Et la deuxième perspective, elle change complètement de dimension, c'est ça ? Elle délaisse un peu la carte géographique pour une interprétation beaucoup plus conceptuelle ?
C'est ça, c'est l'accomplissement dit « spirituel ». De nombreux théologiens s'appuient sur l'évolution du récit dans le Nouveau Testament. Ils estiment que la terre physique de Canaan n'était qu'une préfiguration, une sorte de maquette, en fait.
D'accord, donc on sort du Proche-Orient.
Complètement. Dans cette lecture, les frontières géographiques s'étendent au monde entier et la terre promise devient le symbole de l'Église ou du royaume spirituel qui s'infiltre dans absolument toutes les nations. L'ancrage local est abandonné au profit d'une réalité universelle.
C'est très différent. On passe du mètre carré à la métaphore planétaire. Ce qui nous laisse la place pour la troisième perspective, et celle-ci refuse de spiritualiser le texte. Et c'est d'ailleurs l'analyse privilégiée par le docteur Vanoy lui-même dans son cours.
Oui, le docteur Vanoué défend la vue d'un accomplissement futur et littéral.
Futur, donc ça ne s'est pas encore produit selon lui.
C'est son argument, oui. Et ça repose sur le vocabulaire employé dans le texte de la Genèse. Le texte qualifie cette alliance et cette donation territoriale de perpétuelle ou d'éternelle.
Et l'histoire ne montre pas de possession éternelle jusqu'ici.
Exactement. Il souligne que les retours historiques d'Israël, comme par exemple le retour de l'exil babylonien, n'ont jamais englobé ces frontières massives ni correspondu à la grandeur décrite dans les textes prophétiques.
Par conséquent, il en déduit que l'histoire n'a pas encore livré la conclusion de ce contrat.
Donc il s'attend à un retour géopolitique futur d'Israël pour occuper l'intégralité de cette zone. C'est fascinant de voir trois visions aussi distinctes, un âge d'or révolu, une expansion spirituelle mondiale ou un événement géopolitique encore à venir. Mais bon, quelle que soit la lentille qu'on utilise, l'ampleur de l'engagement donne un peu le vertige.
Ah ça oui, les enjeux sont colossaux.
Une terre immense, une descendance infinie, une bénédiction cosmique. Je veux dire, si on devait sécuriser de tels enjeux aujourd'hui, on mobiliserait des bataillons d'avocats d'affaires, des garants internationaux. Mais à l'âge du bronze, les mécanismes de garantie, bah, ils étaient d'une toute autre nature.
Une nature beaucoup plus viscérale.
Et c'est ce qui rend la scène du chapitre 15 de la Genèse si glaçante. Le soleil se couche sur le désert et la signature du contrat, on a l'impression que ça prend des allures de film d'horreur.
On est effectivement aux antipodes de la signature chez le notaire, avec un petit café. C'est l'un des rituels juridiques les plus marquants de toute la littérature antique.
Le dispositif, il est cauchemardesque. On demande à Abraham de rassembler une génisse, une chèvre et un bélier. Ensuite, il prend une lame, il découpe chaque animal en deux, de la tête à la queue, et il dispose les moitiés ensanglantées face à face sur le sol.
Une scène d'abattoir, littéralement.
Ça crée une sorte de couloir macabre, un chemin bordé de carcasses. Et dans les notes du cours, on découvre que cette scène, elle illustre une expression hébraïque très spécifique, karet brit.
Oui, karet brit. Et la traduction habituelle qu'on trouve dans nos langues modernes, c'est « conclure une alliance ». Mais cette traduction douce, elle masque complètement la brutalité du concept original.
Qu'est-ce que ça veut dire littéralement « karet brit » ?
L'idiome hébreu « karet brit » signifie littéralement « couper une alliance ».
Ah oui, couper, on garde le sens du couteau.
Exactement. La linguistique conserve la cicatrice du rituel, si je puis dire. Le cours du docteur Van Noy mobilise d'ailleurs des découvertes archéologiques majeures pour éclairer cette pratique. En particulier les fameuses tablettes de la cité de Marie.
Alors Marie, pour situer, c'était une métropole florissante de la Mésopotamie antique. Et dans leurs archives diplomatiques, on a découvert un truc incroyable. Pour officialiser un traité d'État, les rois utilisaient l'expression « tuer un âne ».
Tuer un âne, oui. Le démembaumement animal n'était pas du tout un sacrifice religieux ordinaire, comme on pourrait l'imaginer.
C'était quoi alors ?
C'était le standard juridique pour ratifier les contrats d'importance capitale. Le rituel fonctionnait comme un serment d'auto-malédiction.
C'est-à-dire que la personne qui s'engage prononce une malédiction contre elle-même ?
Voilà. En traversant le couloir formé par les animaux morts, la personne prononçait, souvent en silence, une sentence contre elle-même. Et les textes de l'Ancien Testament le confirment de manière très explicite bien plus tard. Par exemple dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 34.
Qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre ?
Des dirigeants enfreignent un traité de libération d'esclaves qu'ils avaient juré de respecter. L'avertissement divin qui suit est d'une violence inouïe. Dieu leur dit « Je vous traiterai comme le veau que vous avez coupé en deux et entre les morceaux duquel vous êtes passé. »
Ah oui, la sanction légale, c'est la reproduction exacte du rituel sur les contrevenants.
C'est ça. Vous brisez le traité, vous finissez comme les animaux.
C'est incroyable. Si on transpose ça dans le monde des affaires aujourd'hui, c'est comme si, au moment de signer la fusion de deux multinationales, le PDG désignait une carcasse écartelée dans la salle du conseil et déclarait un truc du genre...
Que je finisse exactement dans cet état de démembrement et de mort si je respecte pas les clauses du contrat.
C'est une excellente image. C'est littéralement une hypothèque sur sa propre vie.
Et la tension narrative du chapitre 15, elle est donc à son comble à ce moment-là. Le couloir de sang est prêt, Abraham est saisi par une terreur sombre et il plonge dans un sommeil cataleptique. On s'attend très logiquement à ce que le patriarche se lève et titube entre les morceaux de viande pour prêter ce serment terrifiant.
Bah oui, c'est le partenaire inférieur, le mortel. C'est lui qui doit jurer soumission absolue au souverain. C'est la base de tous les mythes antiques. Le petit se soumet au grand, mais là, le retournement de situation est total. Abraham ne bouge pas.
Il reste spectateur, endormi, spectateur de sa propre alliance. Et ce qui s'avance dans l'obscurité pour traverser l'allée ensanglantée, le texte le décrit d'une manière très étrange, comme un four fumant et une torche enflammée.
La présence divine elle-même. On retrouve ce concept de théophanie dont on parlait tout à l'heure, ces éléments de feu et de fumée qui représentent la manifestation physique de Dieu. C'est donc l'entité suprême qui s'engage seule sur le chemin de l'auto-malédiction.
C'est là toute la clé du texte. Et l'analyse théologique de Meredith Klein, qui est largement reprise dans ses travaux de Van Noy, donne tout son sens à cette anomalie.
Que dit Klein ?
Klein met en évidence deux structures diplomatiques opposées dans le Proche-Orient ancien. D'un côté, les traités de suzeraineté et de l'autre, les traités de concession royale ou traités de promesses.
D'accord. Pour faire une petite analogie moderne, je dirais que le traité de suzeraineté, ça serait un peu comme une énorme multinationale dominante qui accorde une franchise à un petit commerçant. La multinationale dicte absolument toutes les règles et c'est le petit commerçant qui signe et s'expose à la faillite totale s'il désobéit.
C'est un très bon exemple, oui.
Et en revanche, la concession royale, ça s'apparenterait plutôt à un riche bienfaiteur qui met en place un fonds irrévocable au profit d'un orphelin. Le bienfaiteur s'engage unilatéralement sur ses propres fonds et il n'exige aucune garantie en retour de la part de l'enfant.
La comparaison est extrêmement pertinente. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que l'alliance qui sera conclue, bien plus tard avec Moïse, au mont Sinaï, elle fonctionnera sur le modèle du traité de suzeraineté basé sur la loi. Le peuple s'exclamera « Tout ce que l'Éternel a dit, nous le ferons ».
Là, c'est le vassal qui s'expose à la malédiction s'il échoue.
Exactement. Mais ici, dans la Genèse avec Abraham, cette alliance-là est une concession pure. Le grand souverain avance seul entre les animaux. Par cet acte déroutant, Dieu assume l'entière responsabilité de l'accomplissement des promesses, mais surtout, il prend sur lui la pénalité mortelle en cas de rupture de l'alliance.
Mais c'est de la pure folie d'un point de vue juridique classique. Je veux dire, le créateur de l'univers, la partie infaillible, accepte de subir le châtiment suprême si le contrat vient à échouer. Tout ça en sachant pertinemment que le partenaire humain, Abraham et ses descendants, sera totalement incapable de maintenir une fidélité parfaite.
Et c'est précisément pour ça que Meredith Klein emploie une expression très marquante pour désigner cette scène de la Genèse. Il l'appelle le Golgotha de l'Ancien Testament.
Ah, waouh ! Le Golgotha de l'Ancien Testament ?
Oui, c'est une anticipation cryptique, terrifiante. Le suzerain s'engage à absorber dans sa propre chair la malédiction pour garantir que la promesse de salut ne soit pas annulée par la défaillance humaine. La garantie du contrat ne repose plus du tout sur la performance de l'homme, mais sur le serment d'autodestruction de la divinité.
Cette image clôture vraiment magistralement l'analyse de ces documents. Le parcours a été dense aujourd'hui. Notre exploration a débuté par un homme invité à renoncer à l'ambition humaine de bâtir sa propre gloire, pour recevoir un nom comme un pur cadeau, pas comme une conquête.
Une grâce dès le départ.
On a vu ensuite comment une enquête archéologique et linguistique acharnée, en dépoussiérant de vieux parchemins araméens, les targums, a permis de prouver que ce patriarche n'était pas juste un modèle moral, un coach de vie, mais le canal d'une intervention mondiale active, avec ce fameux verbe au passif.
Absolument, le itpael qui fonctionne comme un ifal.
Et on termine devant la brutalité d'un rituel mésopotamien. Le karat berit, qui redéfinit complètement l'essence même de l'engagement. Ce qui, je trouve, ramène inévitablement notre regard sur la manière dont fonctionnent nos propres structures de pensée aujourd'hui.
C'est l'intérêt de l'histoire ancienne, ça nous tend un miroir.
Exactement. Parce que, dans une société contemporaine où presque toutes les relations, qu'elles soient professionnelles, sociales ou parfois même intimes, sont de nature transactionnelle, tout est basé sur le principe immuable du donnant-donnant et de la répartition des risques.
Le contrat classique, comme on le disait au début.
Voilà. Et cette plongée antique, du coup, elle provoque un véritable vertige. Si le socle théologique de l'une des plus grandes traditions spirituelles repose sur cette scène précise de Genèse 15, où la puissance suprême choisit de sceller un contrat unilatéral, acceptant de supporter seule les conséquences mortelles d'une trahison qu'elle sait inévitable, alors comment cela redéfinit-il en profondeur notre compréhension de concepts qui nous semblent aujourd'hui si galvaudés ?
C'est une question très lourde de sens.
Qu'est-ce que la véritable grâce ? À quoi ressemble un engagement absolu envers autrui lorsqu'on retire complètement le filet de sécurité de la réciprocité ? C'est vraiment une perspective radicale sur la fidélité. Et c'est une idée qui, je l'espère pour tous ceux qui nous écoutent, continuera de bousculer nos certitudes bien après la fin de cette écoute.